À la croisée des chemins, votre rendez-vous mensuel avec la randonnée, le VTT, le raid, multi-activité, trail, canoë, escalade, pêche à la mouche, ski nordique, raquette, ski de rando et bien sûr, on parle d'écotourisme qui vous emmène donc à la découverte d'un milieu naturel, du territoire ou du patrimoine de notre belle et grande région, des Cévennes aux Corbières en passant par les Grands Causses, les Gorges du Tarn ou encore l'Aubrac et la Margeride. Pardon, une grande diversité de paysages vous attendent pour partager des moments privilégiés en famille ou entre amis. Et comme à chaque numéro, je suis en compagnie de Fred et Fabienne, les fondateurs de Languedoc Nature. Bonjour Fabienne, comment allez-vous ?
Je vais très bien, merci Alim.
Bonjour Fred, ça va ?
Bonjour Alim, tout va bien.
Alors Fabienne et Fred, aujourd'hui vous nous proposez de partir en itinérance hivernale. Tout d'abord, qu'attendez-vous par itinérance ? Alors, Fabienne ou Fred ?
Oui, alors en fait c'est vrai que l'itinérance c'est un mot quand on le prononce qui interpelle. Faut savoir qu'il a été un peu phagocyté par les opérateurs téléphoniques, mais ce ne sera pas notre propos aujourd'hui. Alors l'itinérance c'est quoi ? Ben, c'est ce qui se déplace, mais sans revenir sur ses pas, donc qui ne revient pas sur ses traces, et donc qui progresse à travers un territoire, à travers des paysages. Donc à travers l'itinérance, bon, on perçoit une forme d'immersion. Alors cette immersion, on la précisera par la suite. Et ça situe le pratiquant avant tout dans un espace naturel, sur un itinéraire qui va convenir de définir au préalable.
Très bien. Fabienne ?
Mais voilà, moi je voulais rebondir sur les types d'itinérance qu'on propose et que les participants peuvent pratiquer.
Alors, itinérance avec l'hiver.
En
bien
hiver,
que on
bien
est à la
sûr.
Fin de l'hiver, mais il y a encore il y a
de
quoi
reste
faire
encore un petit peu de neige, oui. Donc nous sur notre arrière-pays, sur la Lozère, les Cévennes et éventuellement les Pyrénées orientales, ce qu'on propose ce sont deux types d'itinérance, les raquettes à neige et la randonnée nordique en ski de randonnée nordique. Donc ce sont des modes de déplacement doux qui ne nécessitent aucune infrastructure et il n'y a pas besoin d'équipement physique particulier, j'entends de structures de montagne à utiliser. Et on est là dans une forme de simplicité, de légèreté et ça c'est vraiment ce qui caractérise l'itinérance hivernale. Donc il suffit d'être équipé de raquettes à neige ou de ski de randonnée nordique pour pouvoir progresser en milieu enneigé. Donc voilà, la raquette à neige, c'est un outil qui est très très ancien. Au départ, c'était du bois qui était courbé et qui était en forme de raquette, évidemment, et où il y avait un treillis de peau de bœuf ou de peau de mouton. Et donc, on pouvait marcher en fixant le pied avec des lanières en cuir. Alors aujourd'hui, elles sont beaucoup plus légères, elles sont beaucoup plus faciles d'utilisation. Elles sont moins grandes aussi. Elles sont plus faciles à chausser. Il y en a certaines qui proposent de rehausser le talon pour pouvoir monter des pentes très abruptes.
Oui, au fil du temps, on les a mieux adaptées.
Ouais. Et donc là, on va utiliser les raquettes avec des bâtons de marche pour pouvoir s'équilibrer. Et puis aussi bien en montée qu'en descente, voilà.
Et là, c'est dans quel secteur, en fait, de la région ?
Alors, on peut l'utiliser... Enfin, là, en ce moment, on peut les utiliser sur le secteur du Mont-Lozère, le secteur de la Margeride, mais c'est... La neige est en train de fondre.
La montagne ardéchoise.
Sur la montagne ardéchoise. Et puis, sur les Pyrénées-Orientales, encore.
Oui, tout à fait.
Alors, les particularités, oui,
et
Fabienne.
On voulait parler aussi du ski de randonnée nordique, parce que ça, c'est notre chouchou. Voilà, oui. Celui-là, on l'aime beaucoup. Fred va en parler.
Oui, alors le ski de randonnée nordique, c'est un ski qu'on pourrait qualifier de ski liberté. C'est-à-dire que c'est un ski de fond, plus large, avec des cars en acier. Mmh. Et on parlait tout à l'heure des infrastructures dont on s'affranchissait dans des itinérances hivernales. Eh bien, avec ce ski de randonnée, on peut partir hors trace. On n'a pas besoin de traces établies par la dameuse. Donc, c'est des skis qui permettent une très bonne stabilité. Et notamment, c'est très appréciable dans les descentes parce que ça permet d'évoluer plus facilement. On a des chaussures qui sont chaudes, qui sont confortables. Donc c'est vraiment le matériel privilégié pour l'aventure, pour l'itinérance hivernale. Et comparé à la raquette c'est un outil assez facile d'utilisation, mais on reste dans la marche. Là, il y a certes de la marche, mais c'est un pas glissé. Donc il y a la notion de glisse et ça permet de couvrir des distances quand même assez appréciables. Et avec un effort qui est moindre. Mmh. Voilà. Bon, il faut avoir un minimum de technique, bien entendu, maîtriser le chasse-neige dans les descentes, mais une fois qu'on a compris la technique du pas alternatif, honnêtement, c'est accessible au plus grand nombre.
Très bien. Alors, pour l'itinérance hivernale, ça se compose donc les particularités, elles se composent en trois parties. Alors, la première, c'est laquelle ?
Bah, tout d'abord, l'itinérance hivernale, il faut prendre en compte la spécificité de l'hiver, à savoir la composante climatique qui va conditionner le choix du parcours. Donc ça, c'est très important. Alors, parce qu'on parle d'itinérance hivernale, mais sans neige, l'itinérance hivernale, elle se transforme en itinérance pédestre.
Oui.
Donc c'est quand même quelque chose qu'il faut bien prendre en compte et ce au regard du phénomène de réchauffement climatique qui touche toutes les zones de moyenne montagne. Et pour nous, en tant qu'organisateurs, c'est vrai que c'est une préoccupation majeure lorsqu'on fait nos programmations, lorsqu'on organise des randonnées pour des groupes. On est souvent en contact direct avec les prestataires locaux pour à la fois déterminer les bonnes périodes et déterminer les bons parcours.
Donc ça, c'est la première phase, c'est définir le parcours de l'itinérance.
Voilà, et tenir compte des spécificités climatiques qui sont propres aux zones de montagne. Mais Fabienne, elle va revenir sur la notion de parcours, et c'est intimement lié avec la question climatique.
Et oui parce que le niveau d'enneigement, évidemment, va influer sur le parcours qui a été choisi. Mmh. Et c'est vrai que dès qu'on va vers des zones de plus basse altitude, eh bien, on va se retrouver peut-être de plus en plus en situation de manque d'enneigement. Donc en hiver, on a un tracé théorique et après, en fonction, le guide qui accompagne le groupe va adapter le circuit, l'itinéraire en fonction des conditions du moment. Donc nous, on va essayer de privilégier des parcours dans des zones plus élevées en altitude, tout en veillant à intégrer des zones de protection en cas de grand vent, parce que c'est vrai que pour qui est déjà monté sur le sommet de Finiels ou le Pic Cassini, on sait que sur les monts Lozère, le vent est terrible et peut nous coucher par terre. Donc il faut faire vraiment attention à avoir des endroits de repli. Et puis il faut aussi faire attention aux manteaux neigeux, parce que, par exemple, nous organisons de temps en temps des itinéraires sur le puits de Sancy. Il y a là-bas des zones qui sont très dangereuses et il faut vraiment faire attention, même si on a l'impression d'être en moyenne montagne et d'être dans une zone tout à fait calme. Mmh. Il peut y avoir des avalanches, tout pareil, et ça peut porter à de lourdes conséquences. Quoi.
Oui, mais de toute façon, bon, ce sont quand même des guides expérimentés qui accompagnent
sûr,
les groupes.
Bien sûr, donc, mais nous y faisons attention, nous aussi, dans notre tracé.
Dans votre tracé, donc dans la préparation vraiment du parcours, tenir compte de tout ça. Une fois le parcours défini, et une fois qu'il est validé, si je puis dire...
On passe à la préparation.
Là, c'est la phase de la préparation.
Voilà, préparation du groupe, et voilà. Et donc, c'est... Faire de la randonnée hivernale, c'est aussi un engagement. Alors physique, ça c'est sûr, à chaque fois qu'on fait de l'itinérance, c'est un engagement physique. Mais c'est aussi un engagement mental. Il faut être prêt à supporter le vent, le froid. Et donc, il faut avoir prévu dans son sac à dos, peut-être trois paires de gants alors qu'on n'en portera qu'une. Mais avoir plus que le nez... plus que le nécessaire, plus que ce qu'on pourrait imaginer.
Mmh. Au cas
donc,
où.
Donc, au cas où. Mmh. Avoir de quoi, et avoir de la place aussi pour ranger les polaires quand on est trop couvert et qu'on, mmh. et oui. qu'on a besoin de se, de se, de se, de se dégager. Voilà.
Ouais.
Et donc... et il faut être, enfin, je reviens sur la préparation mentale parce que les journées qui sont courtes, les conditions météo changeantes, mmh. le froid, tout ça c'est une mise en condition un peu particulière à laquelle on n'est plus tellement habitué parce que nous vivons dans des endroits plutôt confortables. Mmh. Et donc, on n'est plus habitué à être soumis
au...
On
s'est coupé de cette nature aussi,
voilà.
Hein,
voilà.
Avec, de et par oui. notre confort. Hein.
Complètement.
Et, oui.
et donc, il faut pouvoir prendre en compte toutes ces spécificités pour ne pas être déstabilisé mmh. en cas de problème.
Alors, oui, Fred. Donc après, il y a la notion aussi d'équipement, même si on ne va pas faire un catalogue précis de ce qu'on va
pouvoir prendre. Oui, mais il y a un équipement
prendre.
De base.
Il y a un équipement de base et il faut un équipement, en effet, adapté aux pratiques des activités hivernales. Parce qu'il faut en effet à la fois se protéger du froid tout en évitant ce qu'on pourrait appeler le syndrome de la cocotte minute. Parce que on mmh. peut très vite être en surchauffe si, mettons, on est sur des températures douces. Donc il faudra un équipement vestimentaire, les anciens diraient, sur le concept de la pelure d'oignon, où on aura des couches mmh. que l'on enlèvera ou qu'on remettra mmh. en fonction des conditions climatiques.
En cas de besoin, oui.
Voilà, lorsqu'on fera une pause, ben, on aura tendance à se recouvrir pour éviter de prendre froid. Donc ça, tout ça, il faut se préparer à favoriser l'évacuation de la transpiration, hein, mmh. la régulation de la température corporelle. Alors, ça peut paraître anecdotique, mais c'est vraiment à prendre en compte. De toute façon, Fabienne le soulignait tout à l'heure, hein, c'est d'une manière générale, il faut être prêt à affronter tout type de conditions météo, sachant qu'en montagne, les conditions météo sont très changeantes.
Mmh.
Et on peut passer de moments, on va dire, quasi idylliques à des moments parfois très difficiles, rudes, parce qu'on est exposé au vent et aux intempéries.
Donc la préparation, très importante, préparation mentale.
Mmh.
Oui,
hein, c'est bien ça.
Être prêt à pouvoir supporter.
À affronter.
Et à garder son sang-froid. Parce que c'est vrai que quelquefois, on se retrouve dans des situations où on peut très vite devenir complètement déraisonnable. Et
quelques, ne pas paniquer surtout.
Voilà, quelques secondes de bêtises peuvent vous emmener à la catastrophe.
Alors, le parcours, la préparation, et ensuite, avant de partir, ben, forcément, bien s'équiper.
Oui.
L'équipement.
L'équipement, ben, donc une.
Voilà, on vient de l'évoquer.
Oui,
hein, donc,
une bonne veste, un bon pantalon, on va dire étanche, et puis des couches, on va dire de polaire permettant une bonne protection contre le froid, et puis des bons gants, et puis voilà, et des lunettes de soleil, ça c'est très important parce que on sait très bien que la réverbération est très importante en milieu enneigé, et c'est dommage quand même de se brûler les yeux.
Aïe.
Et pour les gens qui se dégarnissent,
ah.
un bonnet. De la crème, oui, c'est un incontournable, mais quand même un bonnet ou un tissu léger pour protéger la tête, parce qu'on c'est dommage d'attraper une insolation en plein hiver.
C'est vrai que c'est quand même curieux,
mais ça peut arriver.
Allez, on marque une pause, on retrouve Fabienne et Fred juste après ceci.
Tu voyais, tu crois pas, ouais.
Bienvenue si vous venez de vous joindre à nous. Je suis toujours en compagnie de Fabienne et Fred de Languedoc Nature. Juste avant cette pause, nous avons parlé donc de l'itinérance hivernale. Alors, avec l'itinérance, on s'approche du... Ben, on continue à parler justement de l'itinérance hivernale. On s'approche du nomadisme. Nomadisme, pardon. On goûte à exploration, une forme d'aventure. Pour vous, ça signifie quoi, Fabienne ?
Alors, pour nous, l'itinérance, c'est une forme d'immersion au sein d'un territoire. Mmh. Au-delà de l'activité que l'on pratique, des préoccupations spécifiques à cette activité, il y a une mise en condition qui nous rend disponibles à la découverte. Il faut avoir envie de se laisser surprendre et de prendre du temps pour contempler.
Et de se plonger complètement dans l'univers, dans le lieu où on se trouve. Quoi.
Exactement. Mmh. Et ça tient aussi au fait que l'itinérance nous conduit à réfléchir, à distinguer ce qui pour nous est indispensable et ce qui relève du superflu. Donc lorsqu'on part en itinérance, on ne s'encombre pas parce qu'on n'en a pas les moyens, parce qu'il faut tout porter dans son sac. Mmh. Et donc il faut s'alléger, il faut... être léger, être mobile et ouvert à ce qui nous entoure. Et pour avoir cette légèreté, cette mobilité, eh bien avoir un sac peu rempli et non encombré de choses qui peuvent nous...
Là, il n'y a aucune place à la futilité.
Non,
là,
non,
là
non,
c'est
non.
Vraiment prendre le minimum et l'essentiel. Quoi.
Et ça permet de se laver le cerveau en même temps. Et c'est vrai que partir de jour en itinérance... c'est comme partir une semaine. Quoi. Ça, ça a le même effet dans le sens où on va vraiment se défaire de tous nos oripeaux du quotidien.
Et quel que soit le lieu, en fait, hein, ce type d'itinérance, c'est ici dans notre région.
Complètement. On peut évidemment, dans notre région, en très peu de temps, être dépaysé et rompre avec notre quotidien. Voilà. Et c'est vrai que... Voilà, Fred, peut-être tu veux rajouter des choses.
Oui, en fait, avec l'urbanisation et tout ça.
Oui,
c'est vrai que l'itinérance, ça marque véritablement une rupture avec nos vies urbaines ou périurbaines, parce qu'on fait corps avec un paysage, avec une nature environnante. On est ouvert aux personnes que l'on rencontre. On va dire que l'esprit et les sens sont en éveil durant cette itinérance. Alors l'hiver, il y a aussi une dimension qui a accru par le fait qu'on est souvent sur des secteurs inaccessibles par la route, parce que les routes sont enneigées. Donc on a véritablement cette sensation de liberté, d'évasion qui donne tout ce charme à cette itinérance hivernale. Alors on le rappelait tout à l'heure, c'est vrai qu'on se fond dans les grands espaces parce que on va les parcourir, on va être en contact avec cette nature, on va être en capacité de l'apprécier, de la comprendre, de l'interpréter.
Être à son écoute.
Voilà, tout à fait. Et parfois, à l'accepter aussi dans ce qu'elle a de plus rude. Et on le soulignait tout à l'heure dans la phase de préparation, se préparer à l'inattendu.
Et justement, par rapport à la préparation, parce qu'on l'a évoqué tout à l'heure, mais une personne qui veut donc faire ce parcours, cette itinérance, si vous la sentez plus ou moins fragile, pas forcément prête à affronter comme ça.
Je pense que ça, on va s'en rendre compte lorsqu'on va dialoguer avec la personne qui va vouloir nous réserver une randonnée. On va le sentir dans ses interrogations, dans ses hésitations, ses questions qui vont nous paraître un peu saugrenues. Donc on va essayer de valider justement sur le fait que la personne est bien...
Donc il y a toujours un entretien au préalable. Hein.
Tout à fait. Oui. Et puis après, on ne l'a pas encore tout à fait souligné, mais il y a l'importance du guide. Sa présence, donc, elle est très, très importante.
Elle est impérative.
Et elle est impérative.
Ah oui, c'est primordial.
Là, en itinérance hivernale, on ne lance pas les gens en liberté. Donc, ce sont des gens qui vont être guidés par des accompagnateurs locaux, donc des gens connaissant parfaitement les lieux qu'il va faire découvrir. Donc, lui, il va avoir un rôle, en effet, sur le côté rassurant, sur l'encadrement à la fois... sur le plan technique, sécuritaire, mais aussi psychologique. Mmh. Il va être la personne qui va rassurer, qui va s'adapter en fonction des personnes qu'il a à sa charge,
parce qu'il les prend à sa charge.
Tout à fait. Et ça va partir du moment où le guide rencontre pour la première fois le groupe, qu'il va déployer sa carte hygiène sur la table et qu'il va présenter le parcours dans son ensemble, qu'il va présenter les particularités. On va dire que là, le voyage commence. Mmh. On parlait de la mise en condition, mais je pense que là aussi, il y a un cran supérieur en termes de préparation. Et puis lui, il va donner aussi les clés d'interprétation du parcours. Il va présenter les paysages, leur géologie. Mmh. Il va présenter un certain nombre d'éléments du patrimoine naturel, historique. Mmh. Et puis, il va jouer ce rôle de cohésion et de dynamique au sein du groupe. Mmh. Donc, c'est tout un ensemble.
Et, oui.
Et c'est véritablement la pierre angulaire, le guide, sur ce type de voyage.
Alors, pour cet hiver, alors il y avait plusieurs... parcours en itinérance. Alors, quel a été le programme ? Là, je sais que vous revenez du...
Du Mont-Lozère.
Alors, le Mont-Lozère.
Voilà, donc le week-end qui vient de s'écouler, nous sommes partis sur le Mont-Lozère et nous avons invité 6 amis qui ne connaissaient pas la pratique de l'itinérance et qui ne connaissaient pas la pratique du ski de randonnée nordique. Donc,
pour eux, c'était un baptême.
Complètement. Mmh. Et donc, nous avons pu louer du matériel de ski de randonnée nordique de très bonne qualité, justement, à la station du Blémard. Donc voilà, je donne des infos pour ceux qui auraient envie d'essayer. Le matériel est vraiment de très bonne qualité. Donc, chaussures, ski et bâtons. Et donc ensuite, nous sommes partis depuis le sommet de Finiels jusque vers le masque de la Barque.
Oui, donc c'est vrai que c'était cette première, ça faisait des années qu'on en parlait à nos amis. Et là, les conditions étaient réunies puisque le Mont-Lozère a eu 1 mètre de neige en 3 jours, il y a maintenant 3 semaines, 1 mois. Et petit à petit, bon, le manteau s'est un peu épuisé, mais il restait encore de belles accumulations pour pouvoir entreprendre cette itinérance. Donc c'est vrai qu'on est parti de ces landes d'altitude à travers donc, ce qu'on appelle le toit des Cévennes, hein, puisqu'on est à près de 1700 mètres. Et puis on a rejoint petit à petit ce qu'on appelle le sentier des hameaux pour aller faire découvrir tous ces hameaux situés entre 1300 et 1400 mètres, donc quand même situés assez haut. Et ces hameaux, c'est vraiment des vestiges de la... du pastoralisme sévenol, puisque c'était des lieux où les gens venaient s'installer durant les estives, où il y avait toute une activité agricole et pastorale intense. Donc ça a beaucoup plu quand même à nos amis qui ont découvert cette architecture si typique, faite de maisons de granit, robustes, justement adaptées à subir les éléments qui peuvent être terribles sur le Mont-Lozère. Donc voilà, donc après, la deuxième journée a été une très belle journée puisqu'on est reparti à l'assaut du Pic Cassini, qui est le deuxième sommet à 1680 mètres. Et là, on les a emmenés glisser sur les croupes arrondies du Mont-Lozère. On a été jusqu'aux sources du Tarn pour enfin boucler au col de Finiels l'itinérance. Donc au global, c'est vrai qu'ils ont beaucoup apprécié. Ils se sont rendus compte de ce fabuleux matériel qui est vraiment un matériel très adapté à l'évasion hivernale. Mmh. Et je pense qu'ils nous ont déjà, ils ont déjà pris rendez-vous pour l'édition 2018 ou 2017.
Oui, Fabienne.
Et je voulais juste rajouter moi ce qui m'a beaucoup touché pendant cette randonnée, c'était de voir donc l'un de nos amis qui s'appelle Bruno et qui régulièrement me disait « Mais quelle sensation de liberté ! Mais on a l'impression qu'on peut tout faire !» Et c'est vrai que on a notre tout petit sac et on est débarrassé de tout ce qui peut relever de nos contingences de la vie de tous les jours.
Nous polluer, entre guillemets.
Oui, entre guillemets. Mais c'est vraiment la sensation que tout est accessible, et surtout dans cet endroit. Bon, là, c'est vrai que nous avions une chance inouïe, parce qu'il faisait très beau, il n'y a pas eu de vent, il n'y a pas eu de blizzard.
Ouais, toutes les bonnes conditions étaient là.
Les conditions étaient vraiment très, très, très favorables, et c'est... Malheureusement, ce n'est pas toujours le cas. Voilà,
mais bon, ça a été un plus pour cette...
Mais c'était vraiment, oui.
Les prochains rendez-vous, les prochains départs, l'hiver touche à sa fin quasiment.
L'hiver touche à sa fin. Il y a encore un groupe là, assez grand hein, sur la partie Margerie des Monts-Lozères. Bon, c'est vrai que la partie Margerie risque d'être un peu difficile. Je pense que ça va se transformer en randonnée pédestre hivernale avant d'atteindre le Monts-Lozères, où là, ils pourront quand même sur le final skier parce qu'il reste encore pas mal de neige. Un autre groupe est déjà sur le massif du Sancy. Ils seront un peu plus chanceux parce qu'il est tombé entre 30 et 40 cm autour de 1300-1400 mètres. Donc les zones de portage seront quand même réduites. Après, on va dire qu'il y a encore la zone du Mézinc et de la montagne ardéchoise où il est encore possible d'entreprendre des itinérances hivernales. À ce jour, il y a bien entendu les Pyrénées-Orientales, mais on est sur des profils plus abrupts, j'allais dire plus alpins, mais non, plus pyrénéens. Donc ça demande une certaine maîtrise technique, et en développé, on fait un peu moins d'itinérances au long cours.
Et après les itinérances hivernales, on passe au printemps.
Eh bien oui.
Et là, vous passez à un tout autre programme.
Tout à fait. Et donc là, on y travaille d'arrache-pied. Il y a des nouveautés qui vont voir le jour. Et puis les premières réservations ont déjà commencé. Donc on est un pied dans la neige et un pied
au soleil
dans les fleurs qui commencent à pointer en garrigue.
Eh ben, si vous souhaitez participer à toutes ces randos, connaître tout le programme de Languedoc Nature, je vous invite à vous rendre sur le site de Languedoc Nature, www.languedoc-nature.com. Sinon, contactez-nous, on se fait un plaisir de vous mettre en relation. Prochain rendez-vous à la croisée des chemins, début avril. Fabienne et Fred, merci.
Merci Alim.
Merci Alim.
Bye bye.
Dernière, l'apiculteur se meurt. Il a eu son heure. Il a fait son beurre. L'apiculteur. Dernière, l'apiculteur effleure. La fin du labeur. Happy, happy culteur. Dans une autre vie, les marguerites s'effeuillent de ralenti. Personne n'est vainqueur. Les proies, les prédateurs savoure le nectar d'une pomme d'api. Happy, happy culteur.